Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le vendredi 12 avril 2019 et avec mes fidèles et truculentes complices Evaroc et Céline Dacosta. Bonjour mesdames.
Bonjour Mathieu.
Nous trépignons d'excitation à l'idée de souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à plusieurs stars que nous adorons. Enfin, certaines que nous adorons et d'autres un peu moins. Mais on leur souhaite quand même à tous un joyeux anniversaire. Alors comment deviner qui on adore et qui adore moins ? Un indice, écoutez la musique qu'on aura choisie pour chacun de leurs anniversaires. Tout d'abord, c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un génie du rire qui a fait les beaux jours d'Europe 1. Happy birthday, Jérôme Commandeur ! Humoriste formidable, comédien hors pair, inoubliable présentateur des Césars où l'histoire retiendra son faux biopic de Carlos. On embrasse fort cet acteur qu'on adore, n'est-ce pas Céline ?
Mais il a fait du porno, hein ?
Oui, mais il déteste qu'on en parle, ça en revanche, non, il vaut mieux pas. Et puis aujourd'hui, c'est également l'anniversaire de celui qui est plus que mon idole, mon dieu. Rien qu'à l'idée de lui souhaiter un joyeux anniversaire, je suis ému, je suis bouleversé, je suis excité, je suis tremblotant.
Mais puis t'es con aussi, t'es sacrément con, j'ai même jamais vu un con pareil. C'est presque aussi con que ma belle-mère.
On n'exagérons rien.
Jean-Pierre Marielle.
Les amis, l'immense Jean-Pierre Marielle a 87 ans aujourd'hui. Et ses plus grandes répliques n'ont pas pris une ride. Des galettes de Pont-Aven à Que la fête commence, en passant par Tenue de soirée, Uranus, Calmos ou encore le magnifique Les Grands Ducs. Il nous aura vraiment régalé, parfois mis en garde.
Le piège classique, les premières chaleurs du printemps. Une blouse un peu étroite qui ne demande qu'à s'ouvrir. Les mains s'égarent, c'est chaud, c'est doux.
Bon anniversaire, monsieur Marielle. Enfin, on souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui à Laurent Wauquiez. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Voilà, voilà.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Quelle question avez-vous choisi de poser à nos auditeurs ?
Écoutez, il y a 27 ans, Disneyland Paris ouvrait ses portes.
Ça s'appelait Euro Disney d'ailleurs.
Exactement, ça s'appelait Euro Disney à l'époque. Mais alors, on vous a trouvé une
Vous savez quoi ? Je ne suis jamais allé à Euro Disney.
C'est vrai ?
Non.
Ah ben, je vais vous emmener si vous voulez.
C'est vrai ?
Ouais.
Oh, j'aimerais bien.
C'est vrai ?
Pour mon anniversaire.
Prenez des photos, s'il vous plaît.
D'accord. Eh ben, on vous a trouvé une petite question marrante. Si vous deviez être un personnage de Disney, lequel seriez-vous ? Vous nous répondez sur Twitter avec l'hashtag Europe 1. Avec Céline, on est Tic et Tac.
On est
Ouais, trop mignonne.
Un jour, Pierre Lescure, dans cette avoue, il dit un truc drôle sur Tic et Tac. Il a dit que c'était les premiers héros gays
oui,
de
c'est
chez
bon,
Disney.
Okay. Allez, passez. Merci. Continuons. On n'a aucune idée de savoir si c'est un garçon ou une fille, Tic et Tac.
Oui, mais non, mais ils peuvent être gays, qu'ils soient garçons ou filles.
Bah, oui, c'est des garçons, Tic et Tac. Ils sont hétéros.
Mais non, mais c'est pas un garçon ou une fille, ils sont du même sexe, Tic et Tac. Bon, ça, c'est un autre débat. Ou alors, ça pourrait être ça, la question du jour. Merci, Céline. La météo du jour, peut-être.
Bon, c'est une belle journée. Il y a beaucoup de soleil, à part dans le sud-est, hein, le sud-est de la région PACA. Bah, oui,
ça tombe bien. Et ce week-end
Ce week-end aussi, ça va être un petit peu mitigé dans le sud-est. Beaucoup de soleil et des températures froides, surtout. C'est ça qui va
bien. Super. Merci, vous écoutez. L'émission qui est un peu à l'image des livres audio pour enfants. Certes, chers parents, on est bruyants, mais vous êtes bien contents de nous avoir sous la main pour les longs trajets. De vous les copains, c'est parti.
Nous sommes le mardi 2 avril, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 12 avril, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Nouveau déboire pour l'EPR de Flamanville. Cette fois, ce sont 8 soudures du réacteur qui sont jugées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. EDF craint un nouveau retard et surtout une facture encore plus alourdie. Fin de garde à vue pour Pierre Palmade, l'humoriste est ressorti libre. L'homme qui l'accusait de viol a avoué avoir menti. Et puis les États-Unis veulent l'extradition de Julian Assange, l'Australien fondateur des WikiLeaks. Arrêté hier à Londres, 7 ans qu'il vivait enfermé dans l'ambassade d'Équateur.
Europe 1.
Presque 8 ans qu'il devrait être en service. Le réacteur nucléaire type EPR situé à Flamanville dans la Manche ne cesse d'accumuler les retards. Après les problèmes de cuves, de composants, ce sont cette fois des soudures 8 situées juste à côté du réacteur. Un groupe d'experts mandaté par l'autorité de sécurité nucléaire les juge non conformes. Nouveau retard de chantier en vue pour EDF et une facture qui ne cesse de s'alourdir. Maud Descamps.
Pour accéder aux 8 soudures qui posent problème, il va falloir casser du béton, mais pas n'importe lequel. Celui des murs qui entourent le réacteur des travaux qui risque donc de paralyser à nouveau le chantier de l'EPR qui comptabilise déjà 8 années de retard. La facture, elle aussi, s'annonce conséquente. L'an dernier, EDF a remis aux normes une 20aine de soudures de l'EPR. Des soudures facilement accessible, qui avait déjà retardé d'un an le chantier et coûté 400 millions d'euros. Mais cette fois, le chantier s'annonce bien plus compliqué. Et si l'autorité de sûreté nucléaire suit les recommandations du groupe d'experts, alors le chantier pourrait être décalé de plusieurs mois, voire un an. Un coup dur de plus, donc, pour ce qui devait être le fleuron du nucléaire français et qui est devenu la bête noire d'EDF. L'EPR de Flamanville devait coûter 3,3 milliards d'euros. La facture a déjà été multipliée par 3, 11 milliards, et devrait encore s'alourdir avec ce nouveau chantier.
Mot des camps, les États-Unis veulent l'extradition de Julian Assange afin de le juger pour piratage informatique. L'Australien de 47 ans qui a dévoilé des milliers de documents classés secret défense via le site internet Wikileaks. Depuis 7 ans, il avait trouvé refuge à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a été arrêté hier matin. La justice américaine avance toutefois avec prudence pour éviter de se voir reprocher d'enfreindre la liberté de la presse.
Europe 1, il est 5h03.
En France, fin de garde à vue pour Pierre Palmade. Aucune charge retenue contre l'humoriste, l'homme qui l'accusait de viol a reconnu avoir menti. Il aurait, hier matin, dégradé l'appartement de Pierre Palmade et aurait lancé ses fausses accusations de viol à l'arrivée de la police. Cet homme est, lui, toujours en garde à vue. 12 ans que Paul François, agriculteur charentais, se bat contre Monsanto, filiale du groupe allemand Bayer. Il accuse le Lasso, un herbicide de la multinationale, d'être à l'origine des troubles dont il souffre. Pour la troisième fois, hier à Lyon, après des jugements en première instance et en appel, la justice lui a donné raison. Une décision qui, dit Paul François, doit faire réagir le gouvernement.
C'est un message à Agnès Buzyn, au ministre de l'Agriculture, au président de la République, qui avait dit qu'il prendrait ses responsabilités pour une autre agriculture, pour retirer le glyphosate. Il a les pouvoirs aujourd'hui. Je pèse mes mots, il a les pouvoirs de trancher. C'est lui qui avait dit qu'il voterait une loi, qu'il ferait voter une loi pour retirer le glyphosate. Il ne l'a pas fait. Donc maintenant, on sait aussi pour qui il travaille, pour qui il roule. Il roule pour Bayer. Je pense que ce soir, il pourrait avoir honte. Parce que derrière ça, c'est des gens qui souffrent, des gens qui sont malades. Et donc les politiques et le gouvernement actuel pourraient prendre ces dispositions. Agnès Buzyn, qui a tout fait pour empêcher la mise en place d'un fonds d'indemnisation que nous défendons depuis 3 ans, honte à elle aussi. Parce que ces victimes demandent juste une réparation.
Des propos recueillis par Laurent Pellet pour Europe 1. Le procès de l'Estonia, pire catastrophe maritime de l'histoire après le Titanic, s'ouvre aujourd'hui à Nanterre. 25 ans après le naufrage en mer Baltique, plus de 850 morts ou disparus, un millier de rescapés et d'ayants droit demandent réparation au certificateur français du ferry. Donald Trump commémorera en France les 75 ans du débarquement le 6 juin en Normandie, comme avant lui Barack Obama en 2014 pour le 70e anniversaire.
Et puis Jérôme, objectif nul ? Alunissage raté pour la sonde israélienne.
C'était la première tentative du pays, mais panne de moteur à la toute dernière minute. La sonde s'est apparemment écrasée sur la Lune. Les Algériens entendent se mobiliser une nouvelle fois massivement. Aujourd'hui, 8e vendredi de protestation contre le pouvoir en place. Journée à risque, la police a accentué la pression ces derniers jours. Et puis, la très attendue plateforme de vidéos de Disney, annoncée comme un futur rival de Netflix. Le calendrier se précise. Elle s'appellera Disney Plus et sera disponible à partir du 12 novembre aux États-Unis. Pour 6,99$ par mois, c'est 2$ de moins que Netflix là-bas. Pour le reste du monde, il faudra attendre 2020. Elle proposera toutes les productions Disney, Pixar, mais aussi Star Wars, des Marvel, etc.
On a hâte. Et puis Jérôme, nous avons tous les deux enfilé nos sweats à capuche. C'est premier pas audacieux vers le sport. Maintenant, essayons de franchir ce pas en passant carrément au journal des sports. À la une.
Je pensais que vous vouliez faire du sport.
On y va doucement.
Ah oui,
le sweat, journal des sports. Éventuellement, si on a le courage, on ira faire un peu de sport après.
D'accord.
Avantage Arsenal, Jérôme.
Oui, le club de foot londonien et ses franchises Koscielny et Lacazette font un joli pas vers une demi-finale de Ligue Europa, la deuxième Coupe d'Europe. Victoire hier en quart de finale, aller 2-0 en Angleterre contre Naples. Par ailleurs, Chelsea est allé battre le Slavia Prague 1-0. Succès 4-2 de Benfica contre Francfort. Et victoire 3-1 de Valence à Villarreal. Match retour jeudi prochain en France. Début ce soir de la 32e journée de Ligue 1. 19h, Dijon-Amiens. 20h45, Nantes-Lyon. Journée de championnat peut-être marquée par le titre du PSG à l'issue de Lille-PSG. J'ai dimanche soir, un club parisien sur le point de retrouver Neymar. Blessé à un pied depuis plusieurs semaines, la star brésilienne a repris l'entraînement. Julien Froment.
Chez du bleu jaune, entouré de Kylian Mbappé et Marco Verratti, Neymar, les yeux rivés sur le ballon. Voilà une image qu'attendaient les supporters parisiens depuis longtemps. Le Brésilien, blessé au pied en janvier dernier, a mis certes plus de temps que prévu pour revenir, mais le club a voulu prendre son temps pour éviter toute rechute. Après un premier travail individuel au camp des Loges, le centre d'entraînement du club parisien, Neymar a donc enfin repris avec ses partenaires. Si le club se montre flou sur un éventuel retour en compétition officielle, le numéro 10 pourrait gratter quelques minutes la semaine prochaine face à Monaco, mais il sera surtout attendu le 27 avril prochain à l'occasion de la finale de la Coupe de France face à Rennes.
Les Bleus du handball tombent de très haut. Ils ont été battus hier soir pour leur rentrée, 3 mois après une médaille de bronze au Mondial.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
En qualification pour le championnat d'Europe l'année prochaine, 33-27 au Portugal.
Alors, le Portugal, Céline.
Pas une nation majeure.
Jouant de balle au Portugal maintenant.
Exactement, c'est pas mal visiblement.
Bah, loin d'être une nation majeure, mais c'est l'une des nations en progrès. L'unique défaite française face aux Portugais remontait à 1949.
Voilà qui devrait.
Non, ils se sont fait surprendre. Ils ont sous-estimé l'adversaire.
Certainement.
Ils n'étaient pas du tout dedans. Voilà qui ne devrait toutefois pas empêcher les Français de se qualifier pour l'Euro suite des qualifications dimanche à Strasbourg. Et réaction d'orgueil attendue puisque les Bleus retrouvent justement les Portugais.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
9, les filles de l'équipe de France de gymnastique disputent en ce moment les championnats d'Europe en Pologne et elles sont parvenues à se qualifier au total pour 9 finales du jamais vu pour la France. 9 finales, dont 4 pour la jeune martiniquaise Mélanie de Jesus dos Santos, 19 ans, en lice pour le titre au concours général, au sol, à la poutre et aux barres asymétriques.
Merci, c'était le journal des sports. Visiblement, Eva, vous aimez cette gymnaste.
J'adore cette gymnaste, oui. Notamment au sol et aux barres asymétriques.
Oh, mais
non, mais c'est vrai.
Et vous êtes vraiment pointu en sport.
Non, hein. J'adore ça.
Merci, les amis.
Europe 1. Il est 5h08, Mathieu Noël.
Et oui, Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre fameuse revue de presse en mode zapping. Et puis, comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Plus facile à dire qu'à faire. Pensez à changer de vie. Yes, we can. Le faire vraiment, it's complicated. Tous les matins dans Fallait Oser, on donne la parole à celles et ceux qui ont osé le faire. Aujourd'hui, je vous présente Philippe, ex-directeur commercial, aujourd'hui dans les huîtres.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Nous faisons, Céline, un premier point sur la météo, mais pas avec n'importe qui.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
On l'appelle Dany entre nous.
Ben oui, c'est Dany. On l'a tous les matins avec nous. Il fait froid, Céline.
Oui, c'est la faute à cette masse d'air polaire qui s'enfonce en ce moment sur la moitié nord de l'Europe. Des températures qui baissent encore un peu aujourd'hui avec des gelées en pleine ce matin. Mais elles baisseront surtout samedi et dimanche où dans la matinée, on aura des valeurs très fraîches, surtout sur la moitié nord. On attend une moyenne dimanche de moins 1 degré. Côté ciel, en revanche, mis à part dans le sud-est, Alpes, Comté, Niçois et Corse, où le ciel est pluvieux et sera orageux avec de la grêle cet
après-midi. C'est quand même le monde à l'envers. Je pense à nos auditeurs qui vont en week-end dans le sud de la France,
oui,
bah exprès pour
beau,
trouver du soleil.
Il fait beau quand même dans les Bouches-du-Rhône, il fait beau en Languedoc-Roussillon, il fait beau.
Moi, je vais demander un remboursement.
Il fait beau dans le Var, vous voyez, c'est vraiment.
Non, mais
vraiment
c'est dans le Cantal, Mathieu. Il fait beau dans
c'est
le Cantal.
Vrai. Ça va.
Il va faire très beau dans le Cantal. Quel bon choix. Le ciel est pluvieux et sera rageux, donc avec de la grêle cet après-midi. On aura juste un ciel un petit peu plus nuageux dans le sud-ouest ce matin, mais ça va s'arranger cet après-midi. Et puis un petit peu plus de nuages, mais des nuages de beau temps sur la moitié nord dans l'après-midi.
Des nuages de beau
mais
temps,
oui,
ça
savez,
c'est un concept en soi. Hein.
Ces espèces de gros nuages un peu joufflus comme ça qui se baladent dans le ciel entre les
lignes. Reprenez vos petites pilules.
Il y a 27 ans, Disneyland Paris ouvrait ses portes. Alors à cette occasion, on vous demande si vous étiez un personnage de Disney, lequel seriez-vous ? Sur Twitter depuis 5h ce matin, vous nous répondez avec l'hashtag #Europe1. Alors voilà, vous m'avez cassé mon effet, mais je le ferai un peu plus tard. Tant pis.
Pardon.
Eh bien justement, méchant que vous êtes, RCMA62 nous dit « Moi je ne sais pas, mais Mathieu Noël serait en Jafar, prêt à tout pour arriver à ses fins, c'est le méchant dans Aladdin. »
C'est vrai ça.
Oui. Gecko il nous dit « Un peu punk, un peu sauvage, mais grande classe, bohème, délicat et racé, je serais le chat de gouttière au Malais dans les Aristochats. »
Oh oui, il est trop classe au Malais.
Et Jean-Sébastien nous dit « Peter Pan pour son insouciance, son esprit d'aventure et pour garder tout ce que l'enfance peut encore nous offrir. Oui. » Vous continuez
Peter
à réagir
Pan,
sur Twitter.
Jackson, hein. On va éviter ce personnage.
Oui, c'est vrai. Mais le syndrome de Peter Pan, hein, psychologique, quand même. Voilà.
Oh oui, merci Françoise Dolto.
Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël. Idiot que vous êtes.
Jafar. Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de rires et de belles rencontres, comme chaque matin vers 5h10, le portrait d'un homme ou d'une femme qui a eu le courage de changer de vie. Aujourd'hui, rencontre avec Philippe Dartois. Philippe vit à Goujan, Mestras, il a 60 ans. Philippe était directeur en marketing dans le secteur automobile, passionné par la mer. Il a décidé de tout recommencer il y a 3 ans et de devenir ostréiculteur dans le bassin d'Arcachon.
Fallait oser. Je ne sais pas si c'est un déclic ou c'est simplement l'écoute de ce que j'avais envie de faire depuis très très longtemps, depuis peut-être ma jeunesse d'ailleurs, qui était de vivre au contact avec la nature. Et pour moi, la nature, c'est la mer. Je suis d'abord un marin. J'ai toujours aimé vivre les pieds dans l'eau ou sur l'eau. J'ai beaucoup fait de voile, j'ai beaucoup pêché tout ce qui peut se pêcher dans la mer, à pied, à la canne à pêche, tout ce qu'on veut. Et quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je me disais, je voudrais être marin-pêcheur. Bon, ce qu'on ne peut pas toujours faire, ce qu'on a envie de faire, j'ai dû faire d'autres choix, mais j'avais toujours ça au fond de moi.
À l'âge où Philippe s'est lancé, les ostréiculteurs prennent normalement leur retraite. C'était donc un vrai défi pour lui. En 2016, il a racheté une petite entreprise ostréicole dans le but de la transmettre plus tard à son collaborateur, Julien.
Alors Philippe a quand même dû passer un diplôme de capitaine de navire. Il a dû suivre aussi un stage en culture marine. Et depuis, eh bien, il s'occupe de ses huîtres avec passion et il revit surtout au contact de la nature et de la mer.
Là, on est vraiment au contact de la nature et de la mer. C'est-à-dire qu'on vit au rythme des marées. Et puis, quel que soit le temps, même quand le vent est assez fort, même quand il fait froid, eh bien, il faut y aller, il faut aller sur l'eau. Parce que si on veut faire un bel élevage d'huîtres, il faut s'en occuper au jour le jour presque, en tout cas au mois le mois. Les trier, les bouger, les retourner. On ne vit plus pareil, quoi. On ne sait plus ce que c'est, un costume, une cravate, une chemise. On est en tenue pour aller à la marée. Et en même temps, c'est très rigoureux. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Ce n'est pas de la poésie, hein. Ça ne s'invente pas.
Et vous pouvez aller déguster les huîtres de Philippe sur le port de Larros à Goujon. Elles s'appellent Les Petites Folies, en hommage à son grand-père qui avait écrit un roman intitulé L'eau de mer rend fou.
C'est mignon. Et puis si vous aussi, vous avez changé de métier et que vous voulez nous faire partager votre expérience, hein, vous le savez maintenant, vous nous envoyez un mail ou bien un petit message sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1. Il est 5h14, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans snober vos zygomatiques grâce notamment à la verve humoristique de Céline Dacosta, dont le réalisateur préféré est Woody Allen.
Avec Marc Dorcel, hein.
Aussi, oui, mais on peut pas tous les citer. À suivre, Mens Sana, et non pas Manzana, comme je l'ai longtemps cru, in corpore sano, disait le penseur romain, un esprit sain dans un corps sain. Voilà la clé d'une vie réussie, Eva. Europe 1 y pourvoit avec Vendredi les bons tuyaux, les conseils culturels de nos experts, avec ce matin des idées bandes dessinées et le guide des applis de running pour préparer le marathon de Paris ce week-end, ou plus simplement vous mettre à la course à pied. Et puis, attention, j'ai les mains froides. C'est ce que nous dira sans doute Dr Ichou avant de nous ausculter avec ce rire sardonique qu'on lui connaît.
J'ai besoin de toucher.
Ce matin, Marcel nous parlera d'un livre qui peut aider les parents dont les enfants rencontrent des difficultés à l'école. Mais avant cela, accueillons le week-end en musique avec LSD, Thundercloud sur Europe 1. C'était, vous l'aurez reconnu, LSD avec Thundercloud sur Europe 1.
Europe 1. Il est 5h17, Mathieu Noël.
À suivre, le tour de la presse en mode zapping, c'est notre fameux pressing. Et puis, un suppo et on lit. Notre séance bibliothérapie avec le docteur Ichou ce matin. Comment aider les enfants qui rencontrent des difficultés d'apprentissage?
Il est 5h17, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Nouveau déboire pour le PR de Flamanville, cette fois ce sont certaines soudures qui sont jugées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. Alors que le réacteur devrait entrer en service en 2012, EDF craint un nouveau retard et surtout une facture encore plus alourdie. Fin de garde à vue pour Pierre Palmade, aucune charge retenue contre l'humoriste. L'homme qui l'accusait de viol a reconnu avoir menti. Il aurait hier matin dégradé l'appartement de Pierre Palmade et aurait lancé ses fausses accusations de viol à l'arrivée de la police. Cet homme est lui toujours en garde à vue. Enfin, le procès de l'Estonia, pire catastrophe maritime après le Titanic, s'ouvre aujourd'hui à Nanterre, 25 ans après le naufrage en mer Baltique, plus de 850 morts et disparus. Un millier de rescapés et d'ayants droit demandent réparation au certificateur français du ferry. Et enfin, cette info de dernière minute, une bonne nouvelle, les amis, le Dalai Lama sort de l'hôpital.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 12 avril. Et si je ne pensais pas chaque matin au pronostic hippique de Thierry Léger, comment feriez-vous? Eh bien, vous feriez n'importe quoi, vous miseriez des numéros au hasard, comme moi à Longchamp dimanche dernier, et vous perdriez plein de blé. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura
des courses ce soir en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 315 Canular. Le mal nommé, car ce trotteur n'a rien d'un farceur, bien au contraire. J'en veux pour preuve ses deux dernières victoires à Vincennes, puis à Enghien, obtenu avec la manière, volontairement ménagé depuis plusieurs semaines en vue de cet objectif et capable d'adopter toutes les tactiques, quelles que soient les circonstances, il ne devrait avoir aucune difficulté à enchaîner un troisième succès consécutif. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 15, Canular.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et Petit Voyeur, réjouissez-vous. Voici la séquence que vous attendez chaque matin, la bave aux lèvres. Cette séquence qui lève le voile sur les coulisses, pas toujours propres, de notre colocation. Hier soir, encore une sacrée soirée, hein, puisque c'était en effet notre pendaison de crémaillère. Oui, nous avons mis le temps à l'organiser, mais nous l'avons fait. Et la liste d'invités triée sur le volet était cependant un peu décevante aux yeux de Céline Dacosta qui s'attendait à un défilé de stars, Europe 1 oblige. Bon.
C'est Mimi Mathieu.
Oui, non, très gênant, il s'agissait en réalité du petit Nolan, le fils de Christelle du service compta d'Europe 1 qui n'avait pas pu le faire garder. Déçue, Céline s'enferma alors dans le mensonge, le déni. À chaque nouvel arrivant, elle disait.
C'est dommage, t'as loupé Calogero.
Jérôme Lacra, quant à lui, tentait péniblement la drague par la danse. Ce qui n'était pas sans émouvoir Céline, de toute évidence sous le charme.
Oula, arrête-toi.
De son côté, près du buffet où elle enchaînait les verrines Picard, saumon, mozza, bleu d'Auvergne, Eva Rock se morfondait en chantant.
J'attends l'amour de mes rêves.
Et c'est là que son regard a croisé celui de Gégé. Ensuite, tout est allé très vite. D'un clin d'œil salace, Eva a invité Gégé à le rejoindre dans la salle de bain. Jérôme a toqué à la porte. Eva lui a demandé le mot de passe, Jérôme a dit
« Orange, baignoire, hérisson ».
La porte s'est ouverte et, contrairement à Céline qui a épié toute la scène à travers la serrure, nous la refermons immédiatement car la suite relève de l'intimité d'Eva Rock et Jérôme Lacroix. Mmh. Cela dit, heureusement que Céline supervisait les opérations car visiblement, Gégé galérait un peu.
Elle n'y est pas.
Quelle soirée ! Allez, on passe au pressing. Ah ben on s'entraide dans une colocation, on est là les uns pour les autres.
C'est vrai.
Notre revue de presse en mode zapping, les amis, à la une de vos journaux ce matin, une condamnation, une question et une photo. Sud-Ouest a choisi de consacrer sa première page à Paul François, cet agriculteur qui vient de remporter une bataille judiciaire contre la firme Monsanto, une décision historique, titre Le Quotidien. Le Parisien s'interroge sur les problèmes de discipline dans les établissements scolaires, exclus du collège. À quoi bon ? La section serait en effet loin d'être efficace. Et enfin, la photo, c'est celle qui orne la une de Libération. Une femme vêtue de blanc, debout sur le capot d'une voiture, les doigts tendus au milieu d'une foule de femmes la filmant avec leur portable. La scène se passe au Soudan. La pression populaire a eu raison du pouvoir, comme en Algérie. Libé titre ainsi « Printemps arabe, saison 2 ». Mais vous, mes insatiables gougnafiers, qu'avez-vous relevé de croustillant dans la presse du jour ? Eva Rock.
Eh bien, ce matin, je voulais vous présenter Marc et Scott, ou Scott et Marc, parce que difficile de discerner qui est qui. Logique, ils sont jumeaux. Deux hommes de 50 ans dont Sud-Ouest vous raconte l'histoire aujourd'hui. Scott Kelly est astronaute, Mark Kelly est un ancien astronaute. Et grâce à eux deux, la NASA vient de mener une étude étonnante dont les résultats viennent d'être publiés dans la revue Science. Une étude comparative entre les deux hommes parce qu'en effet, 84 chercheurs se sont penchés sur le cas des jumeaux. Une batterie d'examens réalisée dans l'espace pour Scott qui a passé 340 jours autour de la Terre à 400 km d'altitude. Et sur Terre, pour Mark, l'objectif en fait, c'est de comparer les réactions des corps. Vous m'avez suivi ?
Mm-hmm. Oui, mais jusque-là, quand même.
Oui, c'est, non, mais c'est parce que je vous voyais un peu. Voilà.
Là, je suis dans
alors,
la Lune.
Bon. Ah, ah joli. Bon. Alors, sur l'ensemble des données qui n'ont pas encore été toutefois toutes étudiées, celle concernant les télomères est extrêmement intéressante. Alors, les télomères, je vous raconte ce que c'est. Elles se trouvent à l'extrémité des chromosomes et raccourcissent habituellement avec l'âge. En fait, ce sont des marqueurs de vieillesse, les télomères. D'accord ? Donc, elles se raccourcissent au fur et à mesure. Sauf que les chercheurs ont constaté chez Scott, qui était dans l'espace, une élongation de ses télomères pendant son séjour dans la station. Donc, les scientifiques, ils cherchent à déterminer si l'exposition plus élevée aux radiations dans l'espace ou encore le stress pourrait expliquer ce phénomène. Parce qu'à ce jour, impossible de dire que l'on vit plus longtemps dans l'espace quand même. Il ne faut pas trop s'enthousiasmer par rapport à cette petite donnée. D'une façon générale,
c'est plutôt l'inverse. Dans l'espace, justement,
ils ont constaté l'inverse. En tout cas, d'une façon générale, en fait, la plupart des modifications qui sont provoquées par le voyage spatial, elles disparaissent en fait, au fur et à mesure avec le retour sur Terre. C'est la principale conclusion. conclusion de l'étude, mais qui reste vraiment à être scrutée de plus près. Cette étude elle reste unique au monde en tout cas, et elle va délivrer des éléments importants pour évaluer la santé et les risques à long terme pour les futurs astronautes, et notamment dans la perspective des vols pour Mars. Vous allez voir le visage de ces deux frères Mark et Scott un peu partout dans tous vos quotidiens, à la fois régionaux et nationaux.
Merci Eva, vous nous avez fait un peu rêver.
Mais oui.
Céline Dacosta.
Une info trouvée dans Le Parisien qui nous dit que le gouvernement va annoncer une formation de 10 heures à la bicyclette, figurez-vous. Alors je ne sais pas si vous vous déplacez
oui,
à vélo.
Ah oui, ça serait une bonne idée ça. Et surtout à la trottinette, il devrait faire des formations.
Oh, punaise, ouais, carrément. J'en peux plus des trottinettes. Alors c'est un moyen de transport écolo de plus en plus encouragé, le vélo. Le problème c'est qu'il est dangereux. En 2017, 173 cyclistes ont été tués et le nombre de morts augmente en moyenne de 2,4% par an depuis 2010. Du coup, l'objectif du gouvernement est de multiplier par 3 l'usage du vélo et d'atteindre les 9% de déplacements en deux roues à l'horizon 2024. Bon courage. Du coup, 4 ministères, éducation, intérieur, sport et transport, annonceront mercredi prochain un nouveau programme visant à enseigner les rudiments du vélo dès le plus jeune âge, avant l'entrée au collège. Une formation destinée aux 6-11 ans. Au programme découverte des panneaux, entraînement sur la voie publique. L'idée, forcément, est que les enfants pourront, en tout cas, que pour les enfants, rouler devienne un savoir aussi obligatoire que lire ou écrire. Rien que ça.
Mais donc, c'est bizarre parce que moi, j'ai l'impression d'avoir eu une formation comme ça quand j'étais sur un petit circuit qu'on avait fait dans l'école primaire. Avec les panneaux, tout ça,
là,
ça
c'est
existe
déjà.
Plus
sérieux. Enfin,
c'est...
Oui,
comment ça c'est très sérieux. Sérieux.
On a parlé ensemble parce qu'on a tous fait en fait la même chose. Et,
et là, c'est plus sérieux.
Oui, voilà. Oui bah, c'est une formation de 10 heures et qui sera faite par des clubs ou associations dans un premier temps, en tout cas, puisque dès mercredi prochain, on aura la liste de ces 1200 clubs qui délivreront cette formation. Et puis, si le succès est au rendez-vous, ça sera fait dans les écoles primaires. Un petit bémol, si je peux juste terminer, c'est que ce sera payant jusqu'à 50 euros.
Ah oui, ah bah c'est pas rien.
Voilà, donc forcément, si ça s'inscrit dans le cadre scolaire, ça ne sera pas très égalitaire pour tout le monde. Il faut que je m'arrête, donc je ne dirai pas la fin. Mais c'est à lire dans Le Parisien, c'est très intéressant.
Et nous le lirons, c'est intéressant, et il faudra que ça soit gratuit. Jérôme Lacroix.
L'histoire qui fait écarquiller les yeux ce matin, reprise dans beaucoup de vos journaux, l'histoire de Roberto Guglielmi, un Italien qui, pendant 12 ans, est parvenu à tromper le monde entier, ses proches, les médecins, les médias, et même le pape en personne. Il a fait croire qu'il était paraplégique. Il n'en était rien. Il vient d'être arrêté. Tout commence en 2007. Ce quinquagénaire décide de simuler un accident. Il demande à l'un de ses amis de faire semblant de le renverser en voiture. Hein, déjà. Il parvient ensuite à produire un faux certificat
médical.
Déjà,
il y a quand même un mec qui a accepté, l'ami qui a accepté de faire ça.
Il y a tout ça. Il fait un faux certificat médical grâce auquel il trompera tous les médecins qu'il rencontrera par la suite. À la clé, il touche des pensions d'invalidité. 137 000 euros escroqués, hein, selon le parquet de Florence en charge de l'enquête. Alors pendant ces 12 années, il parvenait à tromper son entourage en se déplaçant quasi exclusivement en fauteuil roulant. Et l'usurpateur, pour mieux endosser le costume, allait jusqu'à s'injecter de la lidocaïne ou xylocaïne dans les jambes. C'est un anesthésiant. Sommet de l'entourloupe en 2014, il demande une entrevue au pape dans une longue lettre. Il s'émeut de sa situation d'homme en situation de handicap. Le Saint-Père accepte une entrevue. L'instant du baiser de la main papale par le faux paraplégique est immortalisé en photo. Et l'escroc dira à ce moment-là « Le pape m'a rouvert le ciel ». Tout ça était totalement bidon. Alors comment le mystère a-t-il été percé ? Ben, la suspicion naissante a poussé les policiers de Florence à enquêter pendant des semaines. Filatures, photos, vidéos prises à l'insu de l'usurpateur. Et puis aussi le témoignage capital de son ancienne aide à domicile qui a dit « Chez lui, il était complètement valide ». Donc forcément.
C'est un témoignage déterminant.
Mardi dernier, ultime imprudence lors de son interpellation survenue. Alors qu'il descendait l'escalier d'un avion droit sur ses deux jambes.
Ah oui, c'est forcément.
Et crétin.
Il était percé à jour. Merci Jérôme, merci à tous les amis. Le pressing referme ses portes. Et au fait, Eva, étant donné le rapprochement qu'on a vu avec Jérôme Lacroix, j'en déduis que Don Chibro, votre amant mexicain, était remercié. Il vous a déçu ?
Il a raté un porté Dirty Dancing.
Oh le goujat, El Goujo, une plume comme vous,
J'ai
Eva.
J'ai perdu toutes mes dents.
Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la
et
météo.
C'est pas pratique.
Et le journal.
C'est sûr.
Pourquoi ?
Pour
d'accord.
Manger.
Pour manger. Oui, pour manger. Debout les copains, continue avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Donc, jubilant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h29, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point complet sur la météo du jour. Céline Dacosta, c'est une belle journée dans l'ensemble.
Oui, et puisqu'on aura du soleil quasiment partout, là où ça va rester perturbé toute la journée, c'est dans le sud-est et la Corse, avec des averses plutôt faibles ce matin, qui vont prendre un caractère orageux cet après-midi avec de la grêle. Un autre petit bémol plus léger, hein, celui-ci dans le sud-ouest, où on a un ciel couvert ce matin, ça va se dégager cet après-midi. Les températures sont très froides ce matin, vous l'avez compris, on est 3 à 6 degrés sous les normales de saison. Et puis cet après-midi, la moyenne ira du 10 à 17 degrés du nord au sud.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, la matinale qui vous informe, qui vous amuse et même, sur présentation de la carte vitale, qui vous soigne. Et aujourd'hui, c'est bibliothérapie avec notre séquence au titre évocateur, un suppôt et on lit. Chaque vendredi, le docteur Ichou nous parle d'un livre qui nous fait du bien. Ce matin, il s'intitule « Dépasser les difficultés scolaires », un ouvrage qui nous révèle qu'être nul en classe ne veut pas forcément dire être nul tout court. Si seulement mon père avait pu lire ce bouquin, lui qui me disait toujours
« Si tu continues sur cette pente, tu finiras comme un clochard drogué !»
Il avait à moitié raison, mais au moins je ne suis pas clochard.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Les infos de ce 12 avril 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin, Hélène.
L'arrestation de l'Australien Julian Assange, réfugié depuis 7 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Les États-Unis veulent le juger, notamment parce qu'il a dévoilé des secrets militaires. 25 ans après le naufrage de l'Estonia au large de la Finlande, un millier de rescapés et d'ayants droit demandent réparation en France en cause Bureau Veritas, le certificateur du ferry. Le drame avait fait 852 morts. Et puis une première médicale, une greffe d'utérus qui pourrait donner un nouvel espoir aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants.
Europe 1.
Ce sont des images qui sont passées en boucle hier soir. L'arrestation de Julian Assange, sorti de force de l'ambassade d'Équateur à Londres où il était réfugié depuis 7 ans, présenté à un juge. Le fondateur de Wikileaks a été reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Il risque jusqu'à un an de prison, mais ce qu'il redoute surtout, c'est l'extradition vers les États-Unis où il est poursuivi pour piratage informatique. Il faut dire que depuis 10 ans, il révèle les secrets de l'Amérique. Xavier Yvon revient sur cette arrestation tumultueuse.
La première bombe lâchée par Julian Assange sur l'Amérique éclate en 2010. Wikileaks publie des centaines de milliers de documents top secrets de l'armée américaine. Ils révèlent des bavures et des pratiques douteuses en Irak et en Afghanistan. Et puis ce sont la CIA et ses méthodes de cyberespionnage qui se retrouveront exposées au grand jour par le site de Julian Assange. En 2016, en pleine campagne présidentielle, Wikileaks révèle cette fois des milliers d'emails de l'équipe de campagne d'Hillary Clinton. Ils ont été volés par des hackers russes, mais ça ne fait rien. Ils font très mal à la candidate démocrate pour le plus grand plaisir de son adversaire, Donald Trump.
Wikileaks, I love Wikileaks.
J'adore Wikileaks, dit alors le futur président des États-Unis, qui ne va pas cesser ensuite d'y faire référence en meeting.
Wikileaks,
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 Wikileaks.
Mais hier, interrogé dans le bureau ovale sur l'arrestation de Julian Assange, Donald Trump avait soudain perdu la mémoire.
I know nothing about Wikileaks. It's not my thing.
Je ne sais rien à propos de Wikileaks, ce n'est pas mon truc, a assuré le président américain. Son administration, elle, travaille depuis des mois à l'extradition de Julian Assange. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
La France seule contre tous, Paris s'oppose à l'ouverture de négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. En tout cas, elle votera contre lundi à Bruxelles, alors que tous les autres États membres ont déjà approuvé le principe. Emmanuel Macron refuse tout accord commercial avec un pays qui n'a pas signé l'accord de Paris sur le climat. Et puis c'est raté, Israël ne deviendra pas le quatrième pays à poser un appareil sur la Lune. La sonde Bereshit ressemblant à une immense araignée à cinq pattes s'est vraisemblablement écrasée après une panne de moteur au moment de l'alunissage. C'était la première tentative finale. Financé par une entreprise privée. Europe 1, il est 5h33.
C'était en septembre 1994, le ferry Estonia avait fait naufrage, pire catastrophe maritime civile depuis le Titanic.
Oui, et aujourd'hui, la justice française va se pencher sur la responsabilité de Bureau Veritas, la société de vérification du ferry. Un ferry qui avait sombré au large de la Finlande, faisant 852 morts, un millier d'ayants droit et de survivants réclament 40 millions d'euros d'indemnité pour préjudice moral. Un enfant de 8 ans retrouvé mort dans un camping-car au camping du Bois de Boulogne à Paris. Les secours ont également découvert le père transporté dans un état grave à l'hôpital ainsi que son jeune frère de 4 ans. Aucune précision pour l'instant sur les circonstances du drame. Pierre Palmade, accusé de viol à tort, l'humoriste est ressorti libre après une journée passée en garde à vue. Son accusateur a reconnu avoir menti.
C'est une première médicale en France, une greffe d'utérus pratiquée à l'hôpital Foch de Suresnes.
C'était le 31 mars dernier. Une femme de 34 ans a pu bénéficier de l'utérus de sa mère de 57 ans. L'objectif étant qu'elle puisse faire un enfant avec l'un de ses embryons congelés. Dans quelles conditions
question, ce type de greffe peut-il être utile pour d'autres femmes? Les précisions de Mélanie Gomez.
Cette greffe concerne les femmes qui n'ont plus d'utérus, soit parce qu'elles n'en avaient pas à la naissance, soit parce qu'on leur a retiré à la suite d'un cancer ou encore à la suite d'un accident obstétrical. Ce qui signifie plusieurs milliers de femmes par an. Mais selon le professeur Israël Nizan, le président du Collège français des gynécologues obstétriciens, elles ne seront en réalité que quelques centaines de candidates chaque année.
C'est d'une extrême lourdeur. C'est pas dénué de risque et il faut vraiment avoir une motivation très accrochée. Il faut attendre qu'il n'y ait pas de rejet. Si un rejet, qu'il soit traité avec succès, dans l'année qui suit le geste chirurgical, on peut réimplanter un embryon congelé.
Enfin, il faut savoir que cette greffe, elle est provisoire. Une fois le ou les projets d'enfant terminés, l'utérus sera enlevé. Au final, un peu comme une poche dont on n'a plus besoin. Et avec lui, disparaîtront aussi tous les traitements anti-rejets.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Et puis, savez-vous que si vous voulez diminuer la pollution de l'air chez vous, mieux vaut éviter les produits ménagers industriels qui sont composés de substances toxiques. C'est ce qu'affirment 60 millions de consommateurs qui a étudié la composition de 60 produits parmi les plus vendus. Le magazine demande au pouvoir public un ménage score qui classerait les produits de A à E sur le même principe que le Nutri-Score pour les produits alimentaires.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. Hélène qui m'en a fait le serment. Elle sait que je ne suis pas insensible à ses charmes, elle sait aussi que je ne suis pas célibataire, elle sait évidemment qu'elle ne l'est pas non plus. Bref, Hélène me l'a promis, elle ne dira plus rien qui puisse passer pour un appel du pied coquin, même si avec les beaux jours, ça risque d'être dur.
J'en ai marre des pantalons.
Oh, carami, elle me rend chèvre. Vite, une douche froide, ou alors un journée d'effort, l'un ou l'autre.
Comment je l'aurais pris, c'est pas
oh,
sympa.
Oh, mais
ouais.
Non, Jérôme, ça m'excite aussi, le journal des sports. On commence par la Formule 1, puissance 1000.
Oui, le millième Grand Prix de l'histoire. Figurez-vous, c'est dimanche, 8h10 à Shanghai, Grand Prix de Chine, troisième épreuve de la saison. Alors ainsi, des célébrations sont prévues d'ici dimanche pour l'occasion. Parce que 69 ans de championnat du monde, eh ben, ça en fait des choses à fêter, Cyril de la Morinerie.
32 pays visités, 72 circuits, il s'en est passé des choses depuis 1950. Et la première course en Grande-Bretagne, remportée par l'Italien Giuseppe Farina, âgé de 43 ans à l'époque, contre 39 pour Kimi Raikkonen, le doyen des pilotes actuels. En presque 70 ans, la Formule 1 a bien évolué. Les monoplaces, évidemment, vont beaucoup plus vite. Vitesse moyenne à Monza en Italie en 1950, 176 km/h contre 234 pour Lewis Hamilton l'an dernier sur ce même circuit. Des monoplaces qui, à l'origine, étaient équipées d'un moteur à l'avant et qui, désormais, se trouvent à l'arrière. Enfin, sachez qu'un seul constructeur a participé à tous les Grands Prix depuis la création de la Formule 1. C'est l'écurie la plus mythique, Ferrari.
Et pour l'instant, ce sont bien les Mercedes qui ont remporté les deux premières épreuves de championnat du monde, Bottas en Australie et le champion du monde en titre, Hamilton à Bahreïn.
Les Bleus du handball surpris au Portugal.
Méconnaissables, ils ont perdu 33-27 en qualification pour l'Euro 2020. Inattendu, les Portugais n'avaient plus battu les Français depuis 1949. Manque d'engagement de la part des Français qui devraient toutefois parvenir à se qualifier pour le championnat d'Europe. Suite de ces rencontres éliminatoires dimanche à Strasbourg, les retrouvailles avec les Portugais, le foot et d'autres Portugais victorieux, ceux de Benfica, 4-2 face à Francfort en quart de finale aller de Ligue Europa. Par ailleurs, victoire d'Arsenal 2-0 contre Naples, de Chelsea 1-0 au Slavia Prague et de Valence 3-1 à Villarreal. Match retour jeudi prochain.
On termine, Jérôme, avec votre personnalité du jour.
Les suites de l'affaire Clémence Calvin, la marathonienne, et de son conflit avec l'Agence française de lutte contre le dopage. Fin mars au Maroc, elle dit avoir été agressée par des préleveurs venus pour un contrôle inopiné, ce que réfute l'agence, qui l'a suspendue à titre conservatoire. Et on vous le disait hier, elle a saisi le Conseil d'État pour tenter de faire annuler la suspension et pouvoir ainsi prendre le départ dimanche du marathon de Paris. Réponse peut-être dès aujourd'hui. L'ombre qui plane au-dessus de l'affaire, c'est bien sûr celle du dopage. Clémence Calvin a-t-elle tenté de se soustraire à la tentative de contrôle inopiné? André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme, souligne l'intégrité de la marathonienne sur le circuit depuis 12 ans.
Chaque fois que vous avez des compétitions nationales ou internationales de haut niveau, il y a obligatoirement des contrôles antidopage. Mais toujours est-il qu'elle a toujours été contrôlée après ses succès. Et que les contrôles, en tout cas, ont toujours été négatifs puisqu'on n'a jamais eu de retour. Quand les contrôles sont positifs, on nous alerte. On n'a jamais eu de soucis de ce côté-là.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, je crois que ce matin, vous teniez à rassurer votre chère maman.
Je n'ai jamais été acteur porno.
Il fallait le préciser. Il fallait le préciser parce que le plombier dans l'Atex Obsession 3 vous ressemble quand même beaucoup. Surtout quand il s'exclame
Adults only.
Ouais, je trouve que c'était vous, mais bon, heureusement, on vous fait confiance.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire. À suivre, notre rubrique médecine. Médecine qui bute encore sur certaines pathologies, comme celle dite du lapsus contagieux. Ces Français qui arnaquent le fisc, exactement.
Un pays européen compte un nouveau président, ou plutôt une nouvelle présidente. Elle s'appelle...
C'est étonnant, hein, ce lapsus contagieux. Il faut qu'on fasse attention.
Ouais, hein. Ouais,
j'espère qu'il y a un vaccin. Ouais. Le vendredi, le docteur Ichou nous fait découvrir un livre santé. Ce matin, il s'intitule « Dépasser les difficultés scolaires », un livre qui va faire du bien aux élèves et à leurs parents.
Il est 5h40, Mathieu Noël.
Debout les copains continue dans notre joyeuse ambiance habituelle et on fait un point sur la météo.
La météo avec Daniel Moquet. Allez, cours, terrasse, Daniel Moquet signe vos allées.
Avec une petite ambiance sportive derrière, vous avez entendu ?
C'est vrai, allez, aussi.
Allez, Daniel Moquet.
Oui, c'est vrai, on peut faire un double sponsor, on leur offre, c'est cadeau. Belle journée Céline, sauf dans le sud-est, vous me narguez.
Oui, c'est vrai, là où ça va rester perturbé toute la journée, avec des averses assez faibles ce matin, qui seront plus fréquentes et orageuses. Avec de la grêle cet après-midi, neige sur les Alpes également, dès 1600 mètres. Pour les autres, grand soleil, petit bémol, hein, juste dans le sud-ouest ce matin, avec des nuages, ça va se dégager dans la journée. Nuages aussi, mais des nuages de beau temps, je sais que vous aimez cette expression, sur
des
la moitié nord cet après-midi.
Temps.
Oui, rien qui ne viendra gâcher cette belle impression de beau temps cet après-midi, vous avez compris. Et les températures sont en baisse, on le sent bien ce matin, ça va continuer à baisser jusqu'à lundi. Cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 degrés à Montpellier, mais seulement 15 à Bastia sous les orages.
C'est pas terrible, mais merci quand même Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Un suppo et on lit. Le vendredi, vous le savez, c'est bibliothérapie. On évoque un livre santé. Bonjour, docteur Marcel Ichou.
Bonjour, Mathieu.
Vous êtes venu ce matin avec un livre qui s'intitule « Dépasser les difficultés scolaires » de Valentine Armbruster. Que nous apprend ce livre, docteur Ichou ?
Vous savez, à l'école, pour comprendre et apprendre, on fait appel à nos facultés auditives et visuelles. Et pour la plupart des élèves, cette approche fonctionne, à condition qu'ils s'investissent bien sûr dans cet apprentissage. Mais pour d'autres, sans qu'ils le soient ni cancre, ni paresseux, ni dyslexiques, ils n'y arrivent pas, c'est un échec. Ils sont parfois simplement kinesthésiques.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors,
kinesthésiques. C'est-à-dire que le mode de perception de la réalité passe essentiellement par le mouvement, les sensations physiques et émotionnelles, et non pas par la conceptualisation. Par exemple, pour les mathématiques, ils ont besoin de comprendre physiquement. Donc, ça passe par quoi ? Compter sur ses doigts ou avec un boulier. Vous voyez la nuance. Ils seront donc plus à l'aise par ce type d'approche. Et Valérie Armbruster a mis en place des méthodes et nous donne les clés de fonctionnement pour ce type de problème, sinon de pathologie, puisque ce n'est pas une pathologie. Donc, être kinesthésique n'est ni mieux ni moins bien. C'est une spécificité du cerveau dont il faut tenir compte dans l'enseignement.
Dépasser les difficultés scolaires. Voyez, j'ai du mal à lire. Valentine Armbruster chez Albin Michel. Bah, si, je vais l'offrir à ma mère. Comme ça, elle comprendra que je n'étais pas nul comme elle le pensait, mais simplement kinesthésique. Merci, Marcel.
Ça va en arranger un paquet, ça. Europe 1. Il est 5h43, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent dans cette douce euphorie liée à l'imminence du week-end. Week-end qui s'annonce torride pour Eva Rock, qui le samedi soir d'ailleurs n'est plus Eva, mais...
Susanna Caputova.
Pseudonyme habile qui lui permet de se fondre plus discrètement dans les méandres de la night parisienne. À suivre. Vendredi, les bons tuyaux, votre rendez-vous culture et nouvelles technologies, sera chaud lui aussi. Au programme, écran, bande dessinée et course à pied connectée, tout ça sous le contrôle d'une légende de l'athlétisme français. Eva Rock, qui hélas pour ses fans, ne participera pas au marathon de Paris ce week-end. Dommage, 42 km pour elle, c'était easy.
À moi, en 10 minutes, c'est torché. Hein.
Oh et bien en attendant, voici un peu de musique. On trace les enfoirés sur Europe.
Mille avant nous ont voulu laisser leurs traces, ils s'en sont vus déçus. De belles âmes que le temps efface, Dieu j'en ai connu.
On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Suffirait qu'on le veuille pour aimer nos voisins.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nous maintenir.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain, on gagne. Demain, demain, tenu.
On trace.
remarque. Et mille ont échoué. Pourquoi penser qu'on peut mener sa barque sans se faire aider? On veut avancer seul, mais on ne va jamais loin. Aux amis qui en veulent, impossible n'est rien.
C'est pas la mer à boire, pas l'océan non plus. Pour dessiner l'histoire, il faut nos mains tenues.
Chanter dans les campagnes et danser dans les rues. Demain, demain on gagne, demain nos mains tenues. On trace.
C'était On trace les enfoirés sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h46, Mathieu Noël.
À suivre, ma chère Céline Dacosta, aimez-vous les bandes dessinées?
Ça dépend du poids et de la taille, en fait.
Oui. Bon, en tout cas, il s'en sera question dans Vendredi les bons tuyaux, votre rendez-vous culture et nouvelles technologies. À l'occasion du marathon de Paris ce week-end, on vous présentera également des applis et des gadgets pour courir connecté.
Il est 5h47, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Nouveau déboire pour le PR de Flamanville. Cette fois, ce sont certaines soudures qui sont jugées non conformes par l'autorité de sûreté nucléaire. Alors que le réacteur devait entrer en service en 2012, EDF craint un nouveau retard et surtout une facture encore plus alourdie. Les États-Unis veulent l'extradition de Julian Assange pour le juger. L'Australien de 47 ans qui a dévoilé des milliers de documents américains classés secret défense via le site internet Wikileaks. Depuis 7 ans, il avait trouvé refuge à l'ambassade d'Équateur à Londres. Il a été arrêté hier. Enfin, les Algériens entendent se mobiliser une nouvelle fois massivement aujourd'hui. 8e vendredi de protestation contre le pouvoir en place. Journée à risque, la police a accentué la pression ces derniers jours.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 12 avril. Et à présent, Eva, tendez l'oreille.
C'était un bruit de tire-bouchon, on est d'accord?
Oh la vache, vous avez vraiment un gros problème d'alcool, vous. Voici les pronostics hippiques. Bonjour José Covès.
Bonjour, et niçois qui mal y pense. Ce soir à Vincennes, 20h15, 16 trotteurs au départ de la troisième course sur les 2850 mètres de la grande piste. Mais 5 priorités. En tête, le 15 Canular. Il trotte à plein régime, il faut le prendre très au sérieux. Le 13 Bamour ne cesse de briller, il est prêt à continuer. Le 6 Baron du Goutier est un vrai dur, il ne lâche rien. Le 10 Kumba Kuki, c'est mère courage. Et le 12 Baccara de Niro, avec au de combat le maestro Jean-Michel Bazir. Ensuite, on peut retenir le 8 Cétus de Tilou, toujours dans la bonne cadence. S'il ne pète pas les plombs, le 11 Bayoko Satou finira l'arrivée. Et enfin, le 3 Amour du Coglet pour une 5e place. Voici donc mon ticket pour la 3e course vers 20h15. D'abord le 15, le 13, le 6, le 10 et le 12 et ensuite le 8, le 11 et le 3.
Moi, José, j'aurais tendance à croire à ce canular qui n'en est pas un.
Depuis que Johan Le Bourgeois, son nouveau chauffeur, appuie sur l'accélérateur, il trotte à fond la caisse devant le peloton. Vous avez raison Mathieu, ce canular ne fait plus rire personne.
Évidemment, mais je commence à m'y connaître José. Merci.
Il est 5h49.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1.
Debout les copains.
Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi, les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies au service de notre quotidien et Mathieu Charrier pour le 9e art, autrement dit Céline.
Le tir à la corde.
Non Céline, le 9e art.
Le ski nautique.
Non, enfin.
Le vol en soufflerie.
Mais non, le 9e art.
Le wushu.
Bon, la bande dessinée. Avec vous Mathieu Charrier, on commence avec un premier conseil BD, ça s'appelle L'art du sushi.
Oui, est-ce que vous aimez les sushis autour
oui.
de cette table?
Bon,
j'adore les sushis. Et est-ce
oui.
que vous avez déjà mangé de vrais sushis?
Oui,
je parle
j'ai
là
la
de
chance.
Grande gastronomie. Ouais. Parce qu'une fois que vous avez refermé.
Chance, mais vous savez que c'est très cher.
C'est très cher.
Charrier.
Si vous êtes, quand vous aurez refermé cette bande dessinée, vous n'aurez qu'une envie, aller au Japon découvrir ce vrai sushi, celui qui ne se cantonne pas, vous savez, au menu B6 à 8 ou Chirashi. L'auteur Frankie Alarcon s'est rendu au Japon pendant plusieurs semaines pour livrer cette véritable BD de reportage qui nous transporte entre un restaurant triple étoilé d'un maître sushi. Ça se passe dans un petit appartement dont il faut connaître l'adresse. Le sushi qui s'accompagne là-bas d'un bon Sake. Merci. Il revient aussi sur l'histoire de Semé, qui il y a quelques années, encore quelques centaines d'années, se servait, vous savez, sous forme de gros gâteau, type un peu framboisier. Il les dessinait dans la bande dessinée, c'est pas très appétissant. On y apprend aussi comment les Japonais, pour garder le poisson le plus frais possible, ne le tuent qu'à la dernière minute, en lui enfonçant une épine dans la colonne vertébrale pour qu'il ne se raidisse pas. Franky part aussi à la rencontre des nouveaux chefs sushi qui bousculent les conventions et inventent notamment, figurez-vous, des sushis à la viande. Bref, c'est passionnant.
Oh, tiens donc.
Il y a même quelques recettes à la fin du livre, le dessin est très beau noir et blanc, foncez acheter l'art du sushi, on parle bien d'un art, c'est publié chez Delcourt.
Et puis deuxième conseil du jour Mathieu, c'est Cassandra Dark signé Posy Simmons.
Oui, sortez vos cup of tea puisqu'on part dans la banlieue chic londonienne, c'est là que vit Cassandra Dark, l'anti-héroïne par excellence. Alors oui, elle est riche, c'est déjà pas mal, me direz-vous, mais elle n'a pas de cœur, elle est égoïste, aigrie, pas belle, faut bien le dire. Précisons qu'elle tient la galerie d'art que son mari lui a léguée à sa mort. Sauf que notre Cassandra va se retrouver mêlée à une affaire de trafic de faux tableaux, d'armes aussi, et qu'elle va y perdre un peu la tête. Je veux pas trop vous en dire, simplement que vous allez adorer détester ce personnage. C'est une bande dessinée bourrée d'humour noir, au dessin toujours magnifique. On retrouve donc l'auteur Posy Simmons, dessinatrice également au Guardian. Elle avait déjà fait Gemma Bovary, qu'il faut lire ou relire. D'accord. Tamara Drew aussi, qui avait été adaptée en film. Elle a un trait qui est incroyable, doux, couleur pastel, vraiment si vous la connaissez pas, allez découvrir à travers notamment ce Cassandra Dark chez De Noël Graphique.
Merci pour ces alléchants conseils, Mathieu Charrier.
Je vous en prie, allons manger des sushis.
Oui, un sushi et une cup of tea.
Oui, le thé accompagne très bien les sushis, vous y connaissez Eva.
Oui.
Et maintenant on passe aux nouvelles technologies au service de notre quotidien, toujours avec l'ami Clément Le Saffre. Clément, le marathon de Paris a lieu dimanche et vous nous avez trouvé les meilleurs accessoires de running connectés.
Absolument, et on commence en toute logique par les pieds. Hein. Savez-vous qu'il existe des semelles connectées, Mathieu ?
Des semelles connectées ?
Absolument, elles se glissent dans les chaussures, c'est un peu comme des semelles orthopédiques. Et grâce, sauf qu'elles sont équipées d'une batterie de capteurs, on est carrément dans une autre dimension, qui analyse tous ces capteurs, les données de la course. Donc le must dans le genre, ce sont les Run Profiler de la marque Digitsol. Mm-hmm. En fait, en plus des classiques distance parcourue, calories brûlées, etc. Mais elles transmettent sur une application gratuite la vitesse de la foulée, la dureté de l'impact au sol. Et elles formulent même des conseils pour améliorer cette technique de course. On peut les trouver à 60€ sur Internet.
C'est quand même vachement bien si on pratique la course de manière régulière. Un autre indispensable de la course à pied, ce sont les écouteurs.
Ouais, parce qu'avec la sueur et les mouvements du corps, eh bien, les écouteurs classiques ont tendance à tomber, à glisser. Il y a donc deux types d'écouteurs adaptés au sport. Les tours de cou, avec juste un fil qui relie les deux écouteurs derrière les oreilles, ce sont les moins chers. Il y en a à partir de 30€. Beaucoup de marques en proposent, on les trouve partout. Et puis, il y a surtout les écouteurs intra-auriculaires, totalement sans fil, en Bluetooth. Là, il faut compter entre 100 et 200€. Alors, c'est le prix d'un casque.
Il faut surtout penser à les recharger.
Il faut penser à les recharger, effectivement. Il n'y a pas beaucoup d'autonomie dedans.
Il vous reste 10%. Alors, vous ne pouvez pas courir longtemps. Du coup,
effectivement.
Je ne suis pas fort.
C'est pour ça que vous ne courez pas trop.
Du coup, pas de marathon pour moi. Je ne peux courir que 3 km.
Donc, ça coûte un petit peu cher, mais si on court régulièrement, ça vaut le coup vraiment parce que c'est très confortable. On peut même carrément les oublier en fait, tellement ils sont discrets. Et le top dans le genre, ce sont les Jaybird Run XT. Ils sont pas trop imposants et ils sont livrés avec 5 tailles d'oreillettes, donc on peut trouver vraiment le plus adapté.
Pour compléter son équipement, si on veut vraiment être top, Clément, on peut ajouter un petit bracelet GPS.
Ouais, c'est un petit plus assez pratique puisque en fait c'est plus léger qu'une montre et en général le bracelet est plus adapté pour limiter les frottements avec le poignet qui sont un peu désagréables. Dans les bracelets GPS, Garmin offre des produits qui sont très appréciés des coureurs. On les trouve autour d'une 100€ et par exemple il y a le VivoSport qui est à 130€ lui, qui permet de suivre en fait dans le temps son activité mais aussi sa condition physique, notamment la fréquence cardiaque pendant la course, ça peut être intéressant.
Ça me donne presque envie de courir d'avoir tous ces gadgets.
Mais allons-y, Mathieu, quittons l'antenne et allons-y.
Allons-y, on vous laisse.
Ça a révolutionné beaucoup tout ce qui était numérique. Là, ça a côté un peu ludique de la
absolument.
Course à pied.
Absolument.
C'est vrai, on peut suivre ses performances, ça donne envie de se dépasser. Eva Rock.
Alors, une nouvelle petite pépite conçue pour le web est signée Arte. Ça s'appelle Une espèce à part. C'est sur le site de la chaîne que je vous conseille en effet de plonger dans cet univers si mystérieux de la création de l'homme, du système solaire, de notre Terre, avec cette question fondamentale. À l'échelle de l'univers, est-ce que l'homme n'est pas insignifiant ? Alors, une interrogation provocatrice, évidemment, pour apprendre et appréhender la relativité.
La seule planète qui abrite des êtres vivants, la Terre, est une oasis de vie au milieu du grand désert cosmique. Mais est-elle vraiment si exceptionnelle ? L'homme n'a en fait qu'une vision très floue de l'univers dans lequel il évolue. À son échelle, ce domaine est tellement vaste et vide qu'il l'a appelé, faute de mieux, espace.
Une espèce à part explore à travers des épisodes de 3 à 4 minutes l'infiniment grand et l'infiniment petit. Une observation de l'humanité à la loupe au cours de laquelle il est question aussi de domination, d'intelligence, d'espace-temps. Alors des notions qui nous paraissent parfois trop scientifiques ou abordées de façon trop complexe sur un plan philosophique et qui, via ce format original, proposent en fait des réponses simples, pédagogiques, avec une once de poésie, un moyen d'envisager autrement notre rapport à la nature. Alors une espèce à part, c'est pour les grands, mais pas seulement. Les ados vont sans doute trouver un début de réponse à leurs nombreuses interrogations et peut-être une réponse à cette question, est-ce que l'homme est-il oui ou non, mais non. Est-ce que l'homme est-il oui ou non une espèce à part ? Vous aurez la réponse.
C'est pas les questions que vous vous posez quand vous êtes adolescent.
Mais vous posez des questions existentielles à l'adolescence.
Est-ce que le Bictol est mieux que le acnéil, machin ?
Mais non, oui, mais pas que.
Non, je vous dis, je suis au cœur de l'esprit des adolescents.
Bien sûr que non.
Je l'ai été longtemps.
Je vous précise que cette web-série documentaire, elle est signée Franck Courchamp, qui est chercheur au CNRS, et Clément Morin, qui est artiste, pour un contenu qui est remarquable d'intelligence. Ça s'appelle Une espèce à part et c'est à voir sur arte.tv et c'est gratuit. Profitez-en.
Profitons-en. Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera lundi. Céline, ça vous a plu ?
J'ai rien compris. Autant je peux écouter.
Bon, la prochaine fois,
Europe 1.
Il est 5h56, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h02.
Céline Kalman. Il est 5h57, Mathieu Noël.
Et on fait un point sur la météo du jour avec vous, ma chère Céline Dacosta. Et comme prévu, on ressort les doudounes.
Oui, les températures continuent de baisser. On est 3 à 6 degrés sous les normales de saison, avec des gelées encore ce matin. On a par exemple moins 2 degrés à Romorantin, moins 1 à Vichy, fait 0 degrés à 3 à Metz et au Touquet, 2 degrés à Rouen, 4 à Lille, 6 à Paris comme hier, 7 à Bordeaux, 9 à Tarbes, 12 à Nice et 14 à Montpellier. Cet après-midi, la moyenne ira de 10 à 17 degrés du nord au sud, 17 à vent près de la Méditerranée, mais un petit peu moins sous la pluie entre Nice et Ajaccio.
Vous semblez contrarié, mais côté ciel, c'est plutôt pas mal.
Mais oui, c'est pas mal, puisqu'on aura du soleil quasiment partout, là où ça va rester perturbé, et ça toute la journée. C'est entre le sud-est et la Corse, avec ce matin des averses plutôt faibles et de la neige sur les Alpes du Sud vers 1600 mètres. Ces averses sont plus fréquentes cet après-midi, avec des orages, localement des chutes de grêle, et puis un autre petit bémol plus léger, celui-ci dans le sud-ouest, où on a un ciel couvert ce matin des Landes au midi toulousain. Quelques gouttes sont encore possible, c'est bien brumeux, mais ça va se dégager. Cet après-midi, ce sera le retour des éclaircies pour les
ça
autres.
Ça va bien se dégager, on espère.
Toujours grand soleil l'après-midi avec juste un peu plus de neige sur la moitié nord. On note aussi le Mistral et la Tramontagne qui vont bien souffler toute la journée.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.